Ken Blanchard a écrit un livre qui s'intitule « La minute cruciale à prendre ». Dans ce livre qui est devenu un best-seller, c'est un auteur américain qui est devenu un best-seller, il recommande aux dirigeants d'entreprise de développer l'habitude de réunir leurs employés et de les féliciter pendant une minute lorsqu'ils ont fait quelque chose de bien. Nous sommes habitués à voir des patrons convoquer un employé parce qu'il a fait quelque chose de mal. Mais il est rare de voir un patron féliciter un employé quand il a fait quelque chose de bien. Et l'idée de Blanchard, c'est de les surprendre en train de faire quelque chose de bien, de surprendre un employé en train de faire quelque chose de bien, et de consacrer une minute directement sur place pour les féliciter ou pour le féliciter pour son bon travail. Et il dit « N'attendez pas, parce que le fait d'attendre brise l'impact que peut avoir une telle intervention. Dites-leur tout de suite sur les lieux même combien vous appréciez le bon travail qu'ils font. » Malgré tout, c'est plus difficile à faire que ça peut le laisser paraître, parce que nous avons plus de facilité à critiquer qu'à lancer des fleurs. Nous sommes plus habitués à consacrer une minute à blâmer qu'à consacrer une minute à féliciter. Pourquoi ne pas tenter l'expérience tout au long de cette semaine? Et c'est un défi que je vous lance, en début de message, un défi que je vous lance, de tenter cette semaine de prendre une minute. Et quand vous rencontrerez quelqu'un qui aura fait quelque chose de bien, que vous le félicitiez pendant une minute, que vous donniez des bonnes paroles à cette personne pendant une minute pour le féliciter, vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Plus facile de critiquer que de féliciter les gens. Surprenez quelqu'un en train de faire quelque chose de bien, félicitez-le sur place, n'attendez pas. Cela pourrait révolutionner votre mariage, changer la relation que vous avez avec vos enfants, encourager ceux qui relèvent de vous. Et de façon générale, cela fera de vous une personne beaucoup plus agréable pour votre entourage. Mais cela doit être intentionnel, et c'est là le point souligné par Blanchard. Et cela s'applique très bien avec notre relation avec Dieu, frères et sœurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont plus disposés à se plaindre lorsqu'ils s'adressent à Dieu qu'à le remercier pour ce qu'il a fait pour eux. J'ai lu cette semaine dans le chapitre 11 du livre des Nombres, où il est écrit que les Israélites murmuraient contre le Seigneur. Ils venaient d'être libérés, imaginez, de 400 ans d'esclavage, et ils avaient vu les prodiges accomplis par le Seigneur, et malgré tout cela, ils se plaignaient, ils gémissaient, ils grognaient. Dieu avait envoyé la manne, ils n'aimaient pas la manne. Ils regrettaient la bonne nourriture qu'ils avaient en Égypte, des esclaves. Hein? Je ne suis pas convaincu qu'ils avaient un steak à tous les jours dans leur assiette en tant qu'esclaves. Hein? Mais vous vous imaginez, ils regrettaient déjà leur esclavage. Dieu en avait fait des hommes libres, et ils préféraient, et ils voulaient retourner dans leur état, dans leur condition d'esclavage. En Égypte, ils étaient esclaves, pardon, mais ils étaient prêts à échanger leur liberté pour avoir un menu plus diversifié que la manne. Dieu leur donna, à Nombre chapitre 11, verset 19-20, Dieu leur donna des cailles pendant un mois entier, jusqu'à ce que ça leur sorte par les narines et qu'ils en aient du dégoût, nous dit le texte biblique. Tout de suite après, c'est Marie et Aaron qui parlèrent contre Moïse parce qu'ils étaient jaloux de Moïse. Deux membres de sa famille, quoi. Deux membres de sa famille qui parlent en mal de Moïse par jalousie. Oh, frères et sœurs, qu'ils sont difficiles à contenter, ces Juifs dans le désert. Et j'évite de porter ce matin un jugement sur eux parce que nous sommes comme eux et ils sont comme nous, frères et sœurs. Prions. Oui, c'est vrai, Seigneur, que souvent, de par la façon que nous avons été élevés, nous sommes beaucoup plus rapides à dégainer les pistolets, Seigneur, pour critiquer, pour juger, pour condamner, plutôt que de féliciter, de louanger le travail de quelqu'un, afin qu'il puisse être encouragé, fortifié. Seigneur, qu'à travers ce message ce matin, tu puisses nous apprendre. Que tu puisses nous apprendre, Seigneur, à être des encourageurs, à être des féliciteurs, Seigneur. Et que nous devons reprendre, non pas pour reprendre, pour le plaisir de reprendre, mais pour ramener des gens, Seigneur, devant toi. Pour reprendre et ramener des gens, Seigneur, les instruire dans tes voies, afin qu'ils puissent, Seigneur, être agréables. Et non pas pour reprendre et reprendre pour rien. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ton esprit. Afin que tu parles au cœur de chaque personne ici présente ce matin, afin que nous puissions recevoir la portion que tu as prévue pour chacun de nous, afin que nous puissions sortir grandis de ce lieu, avec la certitude que tu nous as tous visités sans exception, et que tu nous as encouragés, fortifiés, et déposer dans notre cœur, Seigneur, que tu nous appelles non seulement à être tes ambassadeurs, mais aussi des encourageurs. Et tout cela, c'est pour la gloire de ton nom que je t'ai prié. Amen. Amen. Parfois, nous avons nous-mêmes besoin d'être interpellés. C'est exactement ce que David va faire à travers le psaume 103. C'est une prière de David dans laquelle il nous rappelle de bénir le Seigneur et de ne pas oublier ses bienfaits. Je me demande combien parmi nous pourraient prendre une minute pour remercier Dieu pour toutes ses bénédictions ce matin. Nous savons quoi dire lorsque nous devons demander au Seigneur ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Et frères et sœurs, nous avons besoin d'une bonne dose du psaume 103 afin d'enlever tout esprit de critique et le remplir par un cœur remplacer par un cœur rempli de gratitude envers le Seigneur. Je vous invite à tourner avec moi dans le psaume 103 ce matin. Tournez avec moi dans le psaume 103. Certains considèrent ce psaume comme étant le plus important de tous les psaumes. Le psaume 103 comme étant le plus important de tous les psaumes, y compris le psaume 119. Charles Spurgeon a appelé ce psaume une Bible en lui-même. Et il a dit que nous pourrions user 1000 stylos avant d'en avoir terminé le commentaire. Nous savons par le style du psaume que c'est David qui a écrit ces magnifiques paroles. Et je crois qu'il l'a écrit vers la fin de sa vie, lorsqu'il pouvait jeter un regard en arrière et parler de son expérience sur les compassions du Seigneur. Il commence ce psaume en nous rappelant de louer le Seigneur sans réserve. « Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ce matin, si on pouvait prendre 5 minutes, frères et sœurs, et vous faire lever un par un, dire, écoutez, on fait un exercice de 15 minutes, on se lève chacun, on fait un effort pour se lever et proclamer un des bienfaits que nous avons reçus du Seigneur depuis un mois. David, il dit, « Et je n'oublie aucun de tes bienfaits. » Frères et sœurs, pensez rapidement 3 bienfaits que Dieu vous a accordés cette semaine. 3 bienfaits. Frères et sœurs, on est comme les Israélites. On oublie facilement les bienfaits de Dieu pour s'arrêter sur ce qui ne marche pas dans nos vies. Alors que même dans ce qui ne marche pas dans nos vies, Dieu est présent, on l'oublie. Et que ce qui ne marche pas dans nos vies, c'est parce que Dieu le permet, on l'oublie. Combien il y en a qui ont rendu grâce au Seigneur pour les prières dont il n'a pas répondu? Parce que les prières dont Dieu n'a pas répondu, c'est souvent une réponse aussi à notre prière. C'est que ce n'est pas ta volonté, c'est la mienne. Je sais ce qui est le meilleur pour toi. Et si je réponds favorablement à ta prière, eh bien, ça va être néfaste pour ta vie spirituelle. Donc, je vais répondre favorablement dans ma façon. Et je ne répondrai pas, je garde le silence. C'est aussi une façon pour Dieu de répondre à la prière. Nous avons ici 5 sujets dans ce psaume. On ne peut pas faire le psaume au complet ce matin, c'est beaucoup trop long. On va faire les 5 premiers versets. Mais nous avons ici 5 sujets dans les 5 premiers versets pour bénir le Seigneur que nous ne devons pas oublier. C'est un exercice à faire, frères et sœurs. Et vous allez voir que vous allez être transportés. Pourquoi? Parce que vous allez être... Si c'est votre cas ce matin, vous allez cesser d'être centré sur vous-même. Je dis bien si c'est votre cas, hein? Je ne dis pas que c'est tout le monde. S'il y en a qui sont centrés sur eux-mêmes, le fait de se rappeler de ces bienfaits que Dieu fait, ça nous permet de nous décentrer de notre propre personne et de nous concentrer sur le Seigneur, quoi, ce qu'il a fait pour nous, et non pas ce qui ne va pas dans nos vies. Tu rencontres des gens, tout ce qu'ils ont à dire, c'est ce qui ne va pas dans leur vie, mais c'est déprimant, quoi. C'est vrai que c'est déprimant. Surtout quand la personne a dit qu'elle est chrétienne. Comment ça va? Ah, moi, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, Dieu ne répond jamais à mes prières. Mais le problème n'est pas nécessairement sur le côté de Dieu. Hein? Ah, ça ne va pas, je n'ai pas de travail. Ah, ça ne va pas, j'ai ici. J'ai mal aux reins, j'ai mal à la tête, j'ai mal partout. Premièrement, regardez David. Je vais la lire en français courant. Hein? Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Je veux remercier le Dieu Saint. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. On doit rendre grâce à Dieu pour le pardon qu'il nous accorde. Voilà un sujet de louer le Seigneur. Seigneur, merci pour le pardon que tu m'accordes. David commence par nous rappeler que Dieu pardonne toutes nos fautes. Ce n'est pas une surprise qu'il commence par le pardon, puisque c'est le fondement pour tout le reste qui va suivre. Notre plus grand problème, c'est la culpabilité que nous ressentons à cause du péché. Et notre plus grand besoin, c'est de connaître le pardon de Dieu. Savoir que Dieu pardonne. Il y a un psychiatre qui a dit qu'il pourrait vider 90% de l'hôpital psychiatrique dans lequel il travaillait si les gens avaient la certitude qu'ils étaient pardonnés pour le mal qu'ils avaient fait. La culpabilité que la conscience vient écraser, le poids que les gens ressentent, qui écrase les gens, ils se sentent coupables. Il y a combien de gens, et même parmi les chrétiens, hein, c'est quelque chose qu'on doit se débarrasser, qui viennent au Seigneur et qui essayent de faire des choses pour plaire au pasteur, pour plaire aux anciens, pour plaire aux gens. Il y en a combien? Je suis pas en train de critiquer, mais on a hérité ça depuis qu'on est tout petit. Si tu fais ça, maman va te donner un bonbon, hein? Si tu fais ça, tu vas dormir une demi-heure plus tard ce soir, hein? Hey, les récompenses, un système de récompenses. Si tu fais, tu vas gagner ci. Si tu fais, tu vas gagner une demi-heure de plus. Si tu fais, tu vas avoir un plus gros cadeau à Noël. Et on vient dans le monde d'adultes et on fait la même chose, hein? Si je fais ça, écoute, le patron va être content de moi, hein? Et si je fais ça, je risque d'avoir une bonne promotion, hein? On est sur un système de performance. Et malheureusement, il n'y a que la nouvelle naissance qui peut nous débarrasser de ça, parce qu'on vient au Seigneur souvent et on voit des gens qui essayent de performer pour plaire au Seigneur, non? David ici dit, « Seigneur, merci pour le pardon que tu m'accordes. » Et remarquez ce que David dit ici, « Dieu pardonne toutes nos fautes. » C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Il prend nos péchés, il les efface, il ne s'en souvient plus. Il ne s'en souvient plus. Isaïe chapitre 43, verset 25, « Je ne m'en souviens plus. » Le problème, il n'est pas du côté de Dieu, le problème, il est de notre côté. C'est nous qui n'arrêtons pas de se rappeler de ce qu'on a fait de mal dans nos vies. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oh, je m'en voudrais toujours d'avoir fait ça. Ben écoute, oublie-le parce que Dieu t'en veut plus, lui. Tu l'as confessé. Je m'en voudrais toujours. On ne peut pas revenir en arrière. Et en plus, tu as la consolation de savoir que Dieu t'a pardonné. Parce que Dieu nous connaît, il sait combien on est faible dans notre nature humaine. Il a fait cela à travers le sacrifice de Jésus sur le Golgotha. Lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a paru une seule fois pour supprimer le péché en se donnant lui-même en sacrifice. Hébreux chapitre 9, verset 26. Et il apparaîtra une seconde fois, non plus pour enlever le péché, mais pour sauver ceux qui l'attendent. Hébreux chapitre 9, verset 28. Extraordinaire! On attend après le Seigneur maintenant. Il est déjà venu une fois, il va la deuxième fois qu'il va revenir, c'est pour venir nous chercher. Tous nos péchés passés, présents et futurs ont été effacés à travers le don que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. Il met entre nous et nos péchés autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Psaume 103, verset 12. Juste un peu plus loin dans le psaume qu'on est en train de lire. Dieu a jeté derrière toi tous mes péchés, tous tes péchés, il les efface, il ne s'en souvient plus. Ésaïe 38, verset 17. Et lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché. Arrêtons de se braquer sur le péché contre le Saint-Esprit. C'est autre chose, c'est vraiment quelque chose qui est à part, ça. Mais il efface tous nos péchés. C'est important de se rappeler de ça. Quand le diable vient chuchoter à l'oreille, tu sais, ce que tu as fait là, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Non. Jean, premier épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché. Tout péché. Remarquez que le verbe pardonner, ainsi que les cinq verbes que nous retrouvons dans les trois premiers versets, sont conjugués au présent. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. David, il dit pas, « Seigneur, je te rends grâce pour les péchés que tu m'as pardonnés, pour les péchés que tu me pardonnes. » C'est important de soulever ce point-là, hein, de relever ce point-là. Non seulement il m'a purifié dans le passé, mais il continue à me purifier dans le présent, il continuera à me purifier dans le futur. Et ce, jusqu'à ce qu'il me rappelle à lui, où je me tiendrai dans sa présence pour l'éternité. Quel grand Dieu nous servons, quel Dieu gracieux nous avons. David nous montre ici un aspect de Dieu que nous ne devons jamais oublier. Il pardonne tous nos péchés, passés, présents et futurs. Et il est davantage prêt à nous pardonner que nous sommes prêts nous-mêmes à nous pardonner. ou que nous sommes même prêts à lui demander pardon pour nos péchés. Tellement on a honte. Mais c'est bien de savoir que Dieu nous pardonne. Quand on vient avec un cœur sincère, un cœur repentant, Dieu nous pardonne. Quelle grâce! Quel encouragement pour nous! Amen! Non seulement il est impatient de pardonner, mais il est prêt à pardonner et il veut pardonner à quiconque veut recevoir son pardon. Deuxièmement, regardez une deuxième raison pour laquelle on doit remercier Dieu pour ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies. Alors là, on va rentrer dans quelque chose de particulier. Spirituellement, nous sommes tous les jours sous ses bons soins et il nous rend visite. Il fait ce qu'un bon chirurgien fait avec son patient. Quand il l'a opéré, il va lui rendre visite dans sa chambre d'hôpital, pas simplement pour toucher de la mutuelle, mais surtout parce qu'il a compassion de son patient et il veut l'encourager, il veut le fortifier parce qu'il sait ce que son patient a vécu, quoi. Alors, le Seigneur, il fait la même chose. Aucune maladie de notre âme ne déconcerte. Il peut guérir toutes nos maladies. Il opère encore des miracles et il est capable de guérir toutes les maladies. Mais nulle part, il promet de guérir toutes les maladies. Ça, c'est la différence. Quand quelqu'un vient vous dire que vous n'êtes pas guéri parce que vous avez du péché dans vos vies, bien, vous lui demandez de lui montrer, qu'il vous montre le verset biblique qui dit ça. Tellement de chrétiens qui se sentent coupables parce qu'ils ne sont pas guéris de telle et telle maladie. Dieu est capable de guérir toutes les maladies, mais il n'a jamais promis de guérir toutes les maladies. S'il sait que tu vas le glorifier plus parce que tu es malade, bien, il va travailler avec toi dans ta maladie et il va se glorifier à travers ta maladie. Mais Dieu connaît toutes choses avant. Il sait que s'il donne la guérison, tu vas le laisser tomber. Tu risques de le laisser tomber. Il y a combien de gens, écoutez, qui viennent à l'église quand ils sont malades? Il y a combien de gens quand il y a une guerre? Les églises sont bondées, on manque de place. Et ça pleure, et ça crie. Sauve-nous, Seigneur, et ça pleure. Et quand la guerre est finie, les églises se vident, quoi. Mais c'est la même chose souvent pour des maladies. Hein? Dieu nous connaît. Hein? Et s'il permet la maladie, il y a une raison pourquoi il permet la maladie. Mais Dieu est capable de guérir toutes les maladies, mais il ne promet pas nulle part dans la Bible qu'il va guérir toutes les maladies. Alors, ce n'est pas une question de péché dans vos vies, c'est que Dieu vous donne le meilleur. Dieu réserve toujours le meilleur pour ceux qui lui sont fidèles. Cependant, il permet dans sa grâce à la médecine de soulager nos corps, et dans sa grâce, il sanctifie aussi notre âme. Les deux toutes que nous retrouvons, regardez au verset 3, les deux toutes, il pardonne tous nos péchés et il guérit toutes nos maladies. Ce sont autant de raisons pour nous de louer le Seigneur. Le Christ se réjouit des deux bénédictions qu'il y a dans ce verset. Il ne chante pas pour les autres, il chante pour lui-même, ou plutôt à l'honneur de son Seigneur qui régulièrement lui pardonne et le guérit. Il savait qu'il en était ainsi, sinon il n'aurait pas chanté. Mais il y a une guérison que le Seigneur a promet à tous ceux qui, par la foi, s'approchent de lui, c'est la guérison de l'âme. La guérison de l'âme, vous savez, c'est quoi? C'est la colère qu'on a à l'intérieur, là, qui fulmine à travers nous. Là. Puis on n'est pas capable de s'endormir si on ne dort pas sur notre colère. Seul Dieu est capable de nous libérer de ça. Seul Dieu est capable de nous guérir de ça. La jalousie, Dieu est capable de nous guérir de ça. Hein? La critique, Dieu est capable de nous guérir de ça. Et il veut nous guérir de ça parce qu'il veut se glorifier à travers nous, à travers nos bouches. Ouais. La guérison de l'âme, ça, Dieu veut l'accorder à tout le monde. Hein? Et c'est pour ça que David, il parle de l'âme et qu'il parle du corps. Hein? Il mélange les deux. Hein? La guérison de l'âme, Dieu veut l'accorder à tout le monde. Hein? L'envie, la calomnie, la médisance, Dieu veut guérir ses enfants de tout cela. Hein? Ça, vous pouvez en être certain. Hein? Ouais. Il y en a qui sont tellement habitués à médire, à calomnie, qu'ils pensent que c'est des fruits de l'esprit. Hein? Non. Hein? Non, c'est pas tout à fait ça que la Bible dit. Hein. Ouais. On a besoin de délivrance dans ça aussi. Et c'est ce que David dit. Hein. Quand il dit la guérison, c'est la délivrance. Merci Seigneur de m'avoir délivré, guéri des fruits de la chair qui sont en moi. Merci. Il savait, David, qu'il en était ainsi, sinon il n'aurait pas chanté. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il ressent cela dans son cœur. Par conséquent, il se met à louer le Seigneur de toutes ses forces. Merci, Seigneur, parce que tu pardonnes mes péchés. Merci, Seigneur, parce que tu guéris toutes mes maladies, surtout les maladies de l'âme. Merci. Vous savez, dans 1 Samuel, la relation amicale d'amitié qu'ont Jonathan et David, ça répond au deuxième commandement que Jésus nous a laissé, aime ton prochain comme toi-même. À deux reprises dans le chapitre, je pense que c'est 1 Samuel 18, à deux reprises, on dit que Jonathan aima David comme lui-même. Deux fois, Jonathan aima David comme lui-même. Alors, ce n'est pas impossible d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, parce qu'on n'est même pas sous la grâce, là. On est sous la loi. À deux reprises, la Bible nous dit que Jonathan aima David comme lui-même. Oui. Ça veut dire qu'il pleurait avec David. Il riait avec David. Et les épreuves que David vivait, Jonathan, il y vivait avec lui. Et David rend grâce à Dieu pour les délivrances qu'il lui a accordées, tant au niveau du corps, tant qu'au niveau de l'âme. Rappelez-vous que toute guérison que nous obtenons dans cette vie est limitée et temporaire. Notre ultime guérison viendra lorsque nous revêtirons notre corps immortel et incorruptible. Lorsque ce jour glorieux arrivera, lorsque Jésus reviendra, et que tous ceux qui sont morts en croyant en Christ reviendront à la vie en premier lieu, nous serons enfin totalement guéris une fois pour toutes. Amen. Ouais. Et une autre raison pour laquelle David loue le Seigneur pour ses bienfaits, c'est le verset 4. C'est lui qui rachète ma vie de la fosse. C'est lui qui rachète ta vie de la fosse. Le verbe racheter signifie venir au secours de quelqu'un dont la vie est en danger. La fosse fait référence à la mort en elle-même. Et David ici rend grâce à Dieu. Merci Seigneur, j'étais mort et tu m'as passer de la mort à la vie. Le Seigneur nous rachète de la mort spirituelle dans laquelle nous nous étions tombés et de la mort éternelle, qui est finalement la conséquence de notre péché. Gloire à Dieu pour Jésus qui a accepté de prendre notre place et qui nous a délivrés de descendre dans la fosse en se donnant comme rançon notre place. Frères et sœurs, le rachat de nos péchés constitue l'une des notes les plus douces de ce cantique de reconnaissance pour celui qui croit. Pour celui qui croit. Est-ce que ce n'est pas merveilleux qu'on vienne à l'église le dimanche matin, qu'on n'est pas certain si le Seigneur nous rappelle cet après-midi qu'on va aller au ciel? Est-ce que ce n'est pas béni, ce n'est pas une bénédiction, un sujet de louange, que je ressorte de cette église en disant, « Hey Seigneur, tu peux venir me chercher n'importe quand maintenant, je sais où est ma place, je sais où je m'en vais passer l'éternité. » Ce n'est pas encourageant ça? Ah oui, hein? Ah oui, c'est encourageant. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, il me dit, moi, depuis que j'ai 60 ans, c'est bizarre, hein? La mort, elle refait surface plus régulièrement. Hein? Ouais. Et c'est ça la pensée de l'éternité. Hein? Même les athées, hein? Ça revient. Hein? Ouais. Je vous ai déjà dit, hein, moi, vers 55, quand je voyais les petits-enfants qui descendaient à l'école du dimanche, parce qu'avant, ils étaient dans la première partie, bien, c'est bizarre, hein? Je n'ai pas pensé, je n'ai pas réfléchi, mais il y a une voix qui me disait, est-ce que tu vas les voir marier, ces enfants-là? Tu vas vivre assez vieux pour les voir marier. Ça ne m'était jamais passé que je mourrais. C'est vrai, hein? À 40 ans, 35 ans, qui pense de mourir? Personne, hein? Personne. Et il y a des insensés, même à 85, qui ne pensent pas encore à la mort. Hein? Mais moi, ça m'est venu à l'idée, ça. Est-ce que je vais pouvoir les marier? Est-ce que je serai encore vivant pour les marier? Ou est-ce que je vais les voir se marier? Et là, je ne pense même pas, est-ce que je vais pouvoir voir leurs enfants? J'y pense même pas, quoi. Mais c'est ça la pensée de l'éternité. En tout temps, on est confronté à la mort. Mais combien il est important de savoir, d'avoir la certitude de savoir où on s'en va si le Seigneur vient nous chercher. Le temps que nous sommes sur la terre avec tous ces dangers, ces problèmes, Dieu agit continuellement dans les coulisses afin de nous protéger face à ceux qui nous veulent du mal, en dégageant le chemin devant nous et en renouvelant les forces dont nous avons besoin pour vivre chaque jour qui se lève. Pensez, on rentrera pas dans les détails, mais pensez à Joseph. Pensez à Joseph, Dieu travaillait dans les coulisses. Et Dieu l'a sorti de la prison pour le faire monter sur un trône. Pensez à Joseph. On raconte qu'en Angleterre, il y a une plaque de bronze sur un lit d'hôpital avec ces mots. Ce lit a été fourni par les économies d'un pauvre homme en reconnaissance pour une délivrance inattendue. Si nous pouvions voir la vie comme Dieu la voit, nous ferions une plaque semblable à celle-ci, jour après jour, frères et sœurs. Jour après jour. Merci. Merci pour la délivrance inattendue qui m'a été accordée. Combien de personnes ce matin pourraient se lever et dire, « Seigneur, merci pour la délivrance que tu m'as accordée dans tel domaine. Merci, Seigneur, pour fortifier, édifier, encourager le corps de Christ. C'est important. » C'est important, c'est vrai, non? Facile de louer le Seigneur au début. Hein? Et là, je vais vous donner ma position concernant la louange, hein, sans blesser personne. Il est très facile de louer le Seigneur en début de culte sans être en règle avec le Seigneur. Hein? Très facile. Hein? Même le diable doit louer le culte. Il doit louer le Seigneur hein, en début de culte. Hein? Je n'ai pas besoin d'être en règle, dire Seigneur, tu es bon. Oh, tu es magnifique, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh! Mais quand on a entendu un message, louer le Seigneur après. Si on n'est pas en règle le Seigneur, si on ne veut pas se mettre en règle le Seigneur, on n'est pas capable de louer le Seigneur. Hein. On n'est pas capable d'ouvrir la bouche hein, parce que Saint-Esprit dit « Ouh! 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 Sors ce morceau-là, sors ce péché-là, confesse-le, confesse-le. » On n'est pas capable de... Moi, je ne serais même pas capable de prêcher ici en avant si il y a quelque chose qui ne marchait pas avec le Seigneur. De toute façon, je ne suis pas capable de vous prêcher ce que je ne vis pas, moi. Mais c'est important ces choses-là, frères et sœurs. C'est facile d'épater la galerie de la presse. Mais c'est Dieu, c'est sous le regard de Dieu. Et on est là quand on loue le Seigneur pour proclamer ce que Dieu a fait dans nos vies. Lisez les louanges dans les psaumes de David. C'est ce qu'il dit, hein? C'est un sujet de louange, ça. Je veux dire merci au Seigneur. De tout mon cœur, je veux remercier le Dieu Saint, sans oublier un seul de ses bienfaits, ce qu'il a fait pour moi. C'est lui qui pardonne mes péchés, c'est lui qui guérit toutes mes maladies. Il parle pas des, c'est toi qui guéris les maladies des autres, c'est toi qui pardonnes les péchés des autres. C'est les bienfaits que tu as fait dans ma vie. Et c'est le défi à chaque dimanche quand on vient à l'Église, quand on ouvre la bouche, louer le Seigneur, rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il m'accorde dans ma vie de tous les jours. Seigneur, merci parce que tu me permets de vivre dans un pays où il n'y a pas la guerre. Hey, c'est une bénédiction, ça, hein? C'est une grande bénédiction. En Chine, il y a des chrétiens qui se cachent dans des champs de maïs pendant 24 heures pour espérer recevoir une page de la Bible. Essayer de la prendre par cœur le plus vite possible parce que c'est la dernière fois, la première et la dernière fois qu'ils vont la voir. Une, deux. On a combien de versions à la maison? Combien est-ce qu'on a de versions de la Bible à la maison? Il y a des chrétiens qui n'ont jamais vu une Bible complète. Il y a des chrétiens qui se contentent d'apprendre par un autre, par cœur, ce que l'autre sait par cœur. Merci Seigneur parce que je suis super gâté. Merci. Super gâté, je suis un bébé gâté dans le Seigneur. Frères et sœurs, profitez-en, je ne suis pas un prophète, hein, mais profitez-en. Peut-être qu'un jour on va faire le procès de la Bible. Et on vous empêchera d'en avoir une chez vous, comme dans les années 50 au Québec. Parce que ça rend fou. Au Québec, c'était ça, le mot de passe. Ça rend fou. Donnez-nous. Donnez-nous. Ouais. Frères et sœurs, on est super gâtés. On a toutes sortes de raisons pour louer le Seigneur. Mais on oublie. On oublie. Seigneur, merci de m'avoir choisi pour passer l'éternité avec toi. Tu m'as choisi, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu me devais pour me choisir? Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me choisisses? Malgré mes crachats, malgré ma moquerie, malgré mes péchés, Seigneur, ton regard était porté sur moi depuis toute éternité. Merci, Seigneur, parce que tu pardonnes mes péchés. Merci Seigneur parce que tu me guéris les blessures que les gens m'ont causées dans mon cœur depuis que je suis au monde. Merci Seigneur. On n'a pas des sujets, plusieurs sujets de louer le Seigneur? Amen, hein? Ouais. Je ne suis pas fâché, là, hein? Je ne suis pas fâché. Le ton est peut-être fort, mais je ne suis pas fâché. Une autre raison pour laquelle il rend grâce à Dieu. Regardez le verset 4, la dernière, deuxième partie du verset 4. Pour le couronnement.
Là, il faut aller dans la Louis II, par contre, pour ça.
Qui te couronne de bonté et de miséricorde? Notre Dieu ne fait pas les choses à moitié. Être purifié, guéri et racheté ne suffisent pas. Il ne retirera pas sa main sur nous tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas été jusqu'au bout avec nous, frères et sœurs. Dans son amour, Dieu entasse ses bénédictions et puis il les déverse sur nous. C'est extraordinaire! Est-ce que vous voyez Dieu de cette façon-là ce matin? Ou Dieu est encore un Dieu lointain, qui est perdu de l'autre côté des nuages, on a de la difficulté à le voir, puis que lui a de la difficulté à nous entendre? Est-ce que c'est comme ça que vous percevez Dieu? Et Jésus a dit, celui qui m'a vu, il a vu Dieu, hein? On essaye encore d'imaginer comment est Dieu. Regarde à Jésus, hein? Il faut avoir du culot, hein, pour le faire, hein? Il faut avoir de l'audace, du courage, hein, pour se faire homme et venir sur la terre, hein? Il faut, écoutez, ça c'est juste un sujet de louange à la vie, hein, pour le Seigneur, hein? Seigneur, comment as-tu pu te faire homme, venir nous parler, venir nous dire qu'on était perdus, et venir non seulement nous dire qu'on était perdus, mais nous montrer le chemin, Seigneur. Montrer le chemin pour savoir comment nous en sortir. Seigneur, mais quel amour! C'est vrai, non? Hey! Je ne sais pas si c'est ce Dieu-là avec lequel vous vivez tous les jours, mais c'est ça Dieu, hein? Il est vivant. Il dit, je suis le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts. Hey, on devrait être boosté, hein? On l'a de notre côté, quoi. On l'a de notre côté, ce Dieu-là. Et on va passer l'éternité avec lui. Et le psalmiste, il dit, qu'il te couronne de bonté et de miséricorde. Tu me couronnes de bonté et de miséricorde, dit David. Notre Dieu ne fait pas les choses à moitié, je le répète, dans son amour. Dieu entasse les bénédictions et puis il les déverse sur nous. Le mot miséricorde sous-entend qu'il y a eu un échec, une défaite dans nos vies à cause du péché. Et Dieu sait ce que nous allons traverser et il nous rencontre là où nous sommes. Si nous devions recevoir de Dieu ce que nous méritons vraiment, nous n'aurions aucune chance de nous en sortir ni aucune excuse à offrir. Mais au lieu de nous traiter comme nous le méritons, David dit que dans sa bonté, dans sa grâce, écoutez bien la suite, Dieu nous couronne de miséricorde. C'est incroyable, ça. C'est pas que Dieu nous accorde sa miséricorde, Dieu nous couronne de sa miséricorde. C'est extraordinaire. Revêtu, la couronne, revêtu, qui te revêt complètement, quoi. Dieu te revêt de miséricorde. La couronne nous rappelle notre position en tant qu'enfant de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que de nos jours, il n'y a que les rois et les reines qui sont couronnés, qui portent des couronnes? Et ici, c'est le privilège de tout enfant de Dieu d'être couronné de bonté et de miséricorde en attendant de recevoir la couronne de vie pour tous ceux qui lui sont fidèles. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Hey, on va avoir la couronne de vie. Imaginez la couronne de vie, ce que c'est la couronne de vie. Avec l'arbre de vie qui va être placé en plein milieu sur cette nouvelle terre. Gardons nos yeux fixés là-dessus. C'est des belles promesses de Dieu, ça. Cinquièmement, regardez, verset 5. David a un autre sujet de louer le Seigneur. Pour la satisfaction qu'il m'apporte. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Tu me donnes une nouvelle jeunesse, frère. Tu me donnes une nouvelle jeunesse, Seigneur. Cela signifie qu'il n'y a rien ni personne sur la terre qui peut nous satisfaire au plus profond de nous-mêmes que Dieu lui-même. Les biens ici au verset 5 viennent de Dieu et non pas de ce que nous pouvons voir autour de nous. Dans une autre version, il est écrit qu'il nous comble, il comble notre vie de bonheur. Dans la français courant, entre autres. Ce qui est assez vrai, mais cela pourrait nous donner l'impression que Dieu promet de nous accorder certains avantages matériels comme de l'argent, un statut social, une promotion ou une certaine forme de prospérité sur la terre si nous le servons. Mais l'accent ici est mis non pas sur ce que nous possédons, mais sur ce qui nous possède. Quelle différence! Et ce qui nous possède, frères et sœurs, c'est sa bonté, c'est sa miséricorde éternelle. Ah, il y a tellement de monde qui sont possédés par le diable à l'extérieur. On devrait se réjouir de savoir qu'on est possédé par Dieu. Hein? Ce n'est pas ce qu'on possède en Dieu qui est important, c'est que Dieu nous possède. On est son bien. Et son bien veut le faire fructifier pour le bénéfice des autres. Il pourrait être égoïste. Hein? Ah, j'ai sauvé Jacques Hudon, merci, OK, il n'y a pas personne qui va le voir. Dorénavant, viens te placer ici, là, tu ne bouges pas jusqu'à quand je te rappelle. Il aurait pu faire ça avec tous. Hein? Non. Il dit, je vais former un corps. Et je vais utiliser chaque membre du corps pour qu'il soit au bénéfice de tous les autres. Pour qu'il soit un sujet de bénédiction pour tous les autres. Je veux que ces gens-là aient parlé de mon amour. Je veux que ces gens-là aient parlé de ma miséricorde. Je veux que ces gens-là aient parlé de ma bonté. Je veux me glorifier à travers ces gens-là. Déjà, je leur accorde une couronne de miséricorde et de bonté. Et pour ceux qui restent fidèles, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ils recevront une couronne de vie. On part de loin, hein? On part de loin. Déjà, moi, je viens d'un milieu ouvrier très pauvre. Je suis rendu dans la classe moyenne. Mais là, écoutez, on est parti du statut de pécheur, perdu pour l'éternité. On est devenus enfants de Dieu. Dieu continue de nous élever. Il a fait de nous des rois et des reines en Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Dieu ne nous a pas pris à terre pour nous abaisser davantage. Dieu nous a pris à terre pour nous élever. Dieu nous a sortis de la boue du péché pour nous purifier. Quel Dieu merveilleux on a, frères et sœurs. Et David avait compris ce point-là. Être satisfait signifie être tellement rempli de lui que vous n'avez plus besoin de rien d'autre. As-tu besoin de quelqu'un, de d'autres choses d'autres ce matin dans ta vie pour te sentir heureux? As-tu besoin de quelque chose d'autre dans ta vie pour te sentir heureux ce matin? Alors, c'est parce que ton cœur n'est pas encore assez rempli de l'amour de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est David. C'est comme au fait, lorsque vous prenez un repas copieux, que vous ne pouvez plus rien manger. Vous avez pris deux portions, peut-être trois, peut-être quatre. Vous avez goûté à tout. Et même s'il reste encore beaucoup de nourriture sur la table, vous ne pouvez pas en reprendre parce que vous êtes plein. Mais tôt ou tard, cette satisfaction du moment va disparaître et tôt ou tard, vous mangerez à nouveau. Mais David ici parle d'une satisfaction plus profonde que le monde entier ne peut pas vous offrir, ni à vous, ni à moi. Aux États-Unis, il y a trois choses qui priment le dimanche. L'action de grâce. Le Thanksgiving, hein? Vous connaissez ça, le Thanksgiving Day, hein, aux États-Unis. C'est un jour, je pense, c'est plus important que Noël encore et que Pâques. Hein? Il y a trois choses qui priment lors du Thanksgiving Day aux États-Unis. Une table bien garnie, la famille qui se réunit ensemble, et tout le monde regarde le match de football à la télévision, c'est-à-dire le Super Bowl. Hein? Si vous avez déjà entendu parler du Super Bowl, c'est tout près de 60 millions la minute pour une page publicitaire pendant le Super Bowl. Hein? Donc, si vous êtes un petit artisan qui se démarre en affaires, ce n'est pas votre place d'aller mettre une annonce là-dessus. C'est minimum 60 millions. C'est effarant, quoi. Et il manque de place pour accorder des annonces aux gens. C'est pour vous montrer l'importance de cette journée. Lorsque le repas est terminé, les gens s'assiedent devant leur téléviseur, au moins les hommes, et regardent le match de football sur le réseau national. C'est diffusé partout à travers les États-Unis. Le football est un bon exemple qui nous rappelle la nature éphémère de la satisfaction terrestre. Dans les années 70, il y avait une vedette qui s'appelait Dwayne Thomas, qui jouait pour les Cowboys de Dallas, un autre club, hein, comme les Diables Rouges, bon, et qui était connu pour être quelque peu imprévisible. Une année, son club s'est rendu au Super Bowl. Durant la période de réchauffement, quelqu'un a demandé à Dwayne Thomas ce que cela lui faisait de participer au match ultime du Super Bowl. Il donna une réponse qui aurait pu venir directement du livre de l'Ecclésiaste. Si ce match est le match ultime, pourquoi joueront-ils ce match à nouveau l'année prochaine? Moi, je trouve une réponse extraordinaire. C'est Dieu qui a parlé à travers ce gars-là. Hein? Hey, si c'est le match ultime, pourquoi on va le répéter? On va faire un autre match ultime? Alors, le mot ultime, il perd toute sa saveur, il perd toute son importance. Hein? Pourquoi? Parce que les gens, l'année prochaine, ils vont avoir besoin encore d'être excités puis d'espérer que leur club va gagner. Ils ont besoin d'être excités, ils ont besoin d'être stimulants, parce que la vie la trouve plate, monotone, longue. Pourquoi en effet en est-il ainsi avec ce que le monde offre? Nous sommes ici aujourd'hui, disparus le lendemain. Dieu dit à ses enfants de se rappeler qu'ils sont fragiles et qu'ils finiront par quitter cette terre un jour. Dieu dit, je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin afin que vous puissiez vous élancer comme l'aigle. Nous avons tous besoin de cela et je sais que moi aussi j'en ai besoin. Il y a une façon de renouveler nos forces. Il y a une façon de renouveler vos forces, votre vision des choses ainsi que votre attitude. C'est encore mieux que de faire de l'aérobic, c'est moins cher, et que la nourriture biologique. C'est plus rapide que les régimes amaigrissants et beaucoup moins pénible que de faire du jogging. En quoi consiste cette cure miracle? Remplir votre vie avec les bienfaits de Dieu. Remplir votre vie avec les bienfaits de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Remplir, c'est pas fort ça, hein? Remplir votre vie avec les bienfaits de Dieu. Vous savez, l'époque que
Bon, peut-être parce que j'étais bébé dans le Seigneur, hein. Mais l'époque que je regrette, c'est qu'au début de ma conversion, peut-être la première année, le Seigneur m'a réveillé la nuit. J'étais en train de louer. Je ne faisais pas un cauchemar, hein. J'étais en train de louer le Seigneur, quoi. Et je me mettais à genoux pour continuer à louer le Seigneur. Ouais. Et je regrette donc ce temps-là, quoi. Pas merveilleux, ça. Et là, ça te sort de ta bouche. Tu partages les bienfaits du Seigneur. Tu ne sais pas pourquoi ça sort. On dirait que c'est comme le trop-plein qui se déverse, quoi. Hein? Et on a besoin de partager les bienfaits du Seigneur. Hein? On a quelqu'un, on rencontre quelqu'un qui critique le gouvernement. Bien, rentrons pas avec là-dedans, quoi. Hein? Mais partageons-nous quel gouvernement on fait confiance, quoi. On peut dire aux gens que le gouvernement il est limité dans ses actions. Qui fait ce qu'il peut, qu'il soit honnête, qu'il soit pas malhonnête, c'est pas à moi de le juger. C'est qu'ils vont rendre compte à Dieu pour leur administration. Mais moi, là, j'ai quelqu'un qui gère ma vie autrement que le gouvernement. Il y a un gouvernement au ciel, hein? Hein? Il y a Dieu, il y a les séraphins, les archanges, les anges. Il y en a un autre là, que j'oublie. Mais il y a vraiment un gouvernement dans le ciel, hein? Et c'est à ce gouvernement-là qu'on fait confiance. Hein? Hey, vous pensez qu'on est juste une centaine là, ce matin? Mais je vous invite à retourner dans Néhémie. Son serviteur qui a peur parce que l'armée de Syrie s'en vient les chercher. Et qu'est-ce que Néhémie dit? Hey, arrête de mettre tes yeux sur ces gens-là. Regarde là. Regarde notre armée. Trois fois plus nombreuse. Les anges étaient là. L'armée des anges. J'avais envoyé l'armée des anges protéger son serviteur. Frères et sœurs, on n'est pas tout seul. Et c'est un bienfait, c'est une bénédiction de dire, Seigneur, merci, parce que je sais, peu importe ce que je vois, je suis sous ta protection, Seigneur. C'est pas fortifiant, ça. Hey, les gens dans le monde, ils se sentent tout seuls. Moi, je suis capable de dire, Seigneur, merci, je marche pas tout seul, tu es à mes côtés parce que tu l'as promis. Et peu importe où je suis, Seigneur, je suis jamais seul, tu m'accompagnes. Et je te loue pour cela, Seigneur. Et le soir, quand je me couche, peu importe ce qu'a été ma journée, Seigneur, je te remercie parce que je suis convaincu que tu as été présent partout où j'ai été aujourd'hui et que tu as été témoin de tout ce que j'ai vécu. Seigneur, je te fais confiance. Tu sais ce qui est le mieux pour moi. Vous savez ce que ça nous empêche de faire, ça? D'essayer de développer un plan puis de tirer notre plan. Ou quand on commence à tirer notre plan pour essayer de s'en sortir, c'est deux fois pire. Hein? Dieu a un plan bien meilleur que n'importe quel beau plan qu'on peut inventer, hein? Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous. Amen. Sixièmement, pour la jeunesse éternelle. Regardez le verset. Je vais vous donner ceci. Hein. Ponce de Léon est conquistador espagnol et premier gouverneur de Porto Rico, est souvent considéré comme le premier Européen à avoir exploré la Floride dans le but, dit-on, de découvrir la fontaine de Jouvence. Il ne l'a jamais trouvé parce qu'elle n'existe pas. Dieu dit, je veux satisfaire les besoins de ton cœur, non pas avec de l'or, mais avec des biens. Non pas avec ce qui brille aujourd'hui et qui ne brillera plus demain, mais avec ce qui est permanent, avec ce qui est éternel et qui prend même de la valeur au fil des temps. Dieu veut nous donner sa paix, sa joie, sa satisfaction, la force et la vigueur de pouvoir continuer d'avancer par la foi dans ses promesses. Frères et sœurs, nous arrivons maintenant à la fin de cette magnifique succession de bénédictions qui forme un parfait résumé d'actions de grâce pour quiconque veut réveiller son âme et louer le Seigneur, c'est le cas ce matin. Quelles sont les bénédictions que nous recevons? Elles sont au nombre de cinq. Le pardon, la guérison, la délivrance, le couronnement et la satisfaction. Si vous ne savez pas par où commencer à louer le Seigneur, commencez ici même. Seigneur, merci pour les frères et sœurs que tu m'as donnés à Christ. Je sais que je ne serai jamais orphelin parce que ton corps, il est partout sur la terre. Ta famille, elle est répandue partout sur la terre. Vous savez ce qui est extraordinaire? J'ai quitté le Canada, hein, c'est 6000 kilomètres. 6000, oui. Ouais. Et tu viens de ce côté ici et tu parles avec des frères et sœurs en Christ, tu t'aperçois qu'ils ont le même esprit. Hein. Le Saint-Esprit voyage avec toi. Hein. Le Saint-Esprit, il est partout sur la terre. C'est extraordinaire. Tu n'es pas sous stress de dire, bon, mais comment eux autres, ils fonctionnent? Hein? Ils pensent quoi? Est-ce qu'ils pensent comme moi? Hein? Ben oui, on est tous la même parole. On est tous animés du même esprit. L'adaptation, elle est facile, hein? Alors, on peut louer le Seigneur. Merci, Seigneur, parce que partout où je vais, Seigneur, je vais rencontrer des frères et sœurs en Christ qui ont le même esprit que moi. Alors, si vous ne savez pas par où commencer à louer le Seigneur, commencez ici même. William Law, alors, il n'est pas mort hier, en 1686 à 1761. Il a donné un beau témoignage. Un écrivain anglais et un prêtre de l'Église anglicane a dit ceci. Quel est le plus grand saint dans le monde? Ce n'est pas celui qui prie le plus ou qui jeûne le plus. Ce n'est pas celui qui donne le plus ou qui s'applique à vivre le plus. Ce n'est pas celui qui donne le plus ou qui s'applique à vivre comme Dieu le demande. C'est plutôt celui qui est toujours reconnaissant envers Dieu, qui reçoit tout comme étant un exemple de bonté de Dieu et qui a un cœur prêt à le louer pour ce qu'il reçoit de Dieu. Et moi, je trouve que c'est sage, ça. Écoutez, Dieu peut tout nous donner. Mon Seigneur n'est même pas capable de sortir une parole de reconnaissance de notre bouche. Mais on est quoi, finalement? On est des égoïstes, hein? Et il a raison ici, hein? Pour la plus petite chose que Dieu fait, on devrait manifester de la reconnaissance, une parole de reconnaissance au Seigneur, hein? Hey, Seigneur, merci, parce que ce matin, là, j'ai en pleine capacité de tous mes moyens, hein? Mental, physique. Mental et physique, hein? Si votre tête vous lâche un jour, vous ne serez peut-être même plus capable de louer le Seigneur. Hein? Profitons-en. Hein? On ne sait jamais quand est-ce que la tête va nous lâcher. Hein? L'esprit est toujours là. Hein? On ne sait jamais quand la tête va nous lâcher. Le plus grand saint, c'est celui qui voit Dieu en tout et partout, qui comprend que les circonstances qu'il vit sont les empreintes digitales de Dieu, qui le voit dans le meilleur comme dans le pire que la vie a lui à offrir. Et qui rend grâce à Dieu en toutes choses. Philippiens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Paul, ce bonhomme qui a vécu les pires persécutions, a pu dire dans sa vie, rendant grâce à Dieu en toutes choses. Parce que Paul voyait Dieu dans les pires, comme dans les meilleurs moments de sa vie. Seigneur, si je vis ça, ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas, mais si tu le permets, il y a une raison. C'est au bénéfice de ma vie spirituelle. Ça va me rapporter pour l'éternité. Merci pour la grâce. Eh, c'est ça, hein? Remercier Dieu en toutes choses. Merci pour la grâce. Paul va dire aussi, c'est une grâce que Dieu vous fait de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. C'est une grâce. Vous la voulez, cette grâce-là? Allez prêcher dehors. Allez déborder de grâce. Hein? Eh, mais comment Paul peut-il dire ça, quoi? C'est une grâce que Dieu vous fait de pouvoir souffrir pour le beau nom de Jésus-Christ. C'est extraordinaire, non? C'est une grâce. Et elle est accessible à tout le monde. Hein? Dans son sermon sur le psaume 103, le pasteur méthodiste Clovis Chappell mentionne que sur la côte ouest de l'Angleterre, il y a là le tombeau d'un homme qui a été fort apprécié par tous ceux qui l'ont connu. Lorsqu'il est mort, on a inscrit ces mots sur sa pierre tombale. « Ici gît un homme qui a trouvé sa satisfaction en Jésus-Christ. » Donc, ce n'est pas lui qui l'écrit, hein, c'est ceux qui l'ont connu. Lui est mort, il n'a pas pu l'écrire. Hein. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'il pouvait refléter autour de lui. Ça devait être un encourageur extraordinaire, ce bonhomme-là. Quelle est l'application de tout ce que nous venons de voir? Alors que les années filent et que la vie nous enseigne d'importantes leçons, nous apprenons que ce ne sont pas tous nos rêves qui vont se réaliser. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Ceux d'entre nous qui sommes sages ont appris à remercier Dieu pour toutes les prières pour lesquelles Dieu n'a jamais répondu. Et pour les rêves qu'ils ont eus et qui n'ont jamais vu le jour. C'est bien d'avoir de grands rêves et d'imaginer que vous pourriez tous les réaliser un jour, mais vivre éternellement dans le futur vous porte à vous rendre malheureux si vous vivez le contraire aujourd'hui de ce que vous croyez. Si vous ne savez pas par où commencer à mettre en pratique ce sermon, revenez au tout début et prenez le conseil de Ken Blanchard, la minute cruciale à prendre cette semaine. Surprenez votre conjoint en train de faire quelque chose de bien, et félicitez-le pendant une minute. Mais vous allez voir que ce n'est pas facile. Surprenez vos enfants en train de faire quelque chose de bien et félicitez-les pendant une minute. Vous allez voir que ce n'est pas facile. En tant que parents, souvent, on est beaucoup plus en train de reprendre des enfants que de les féliciter. Et ils ont besoin d'une parole d'encouragement. On a tous besoin d'une parole d'encouragement. Surprenez vos amis en train de faire quelque chose de bien et félicitez-les pendant une minute. Surprenez vos collègues de travail en train de faire quelque chose de bien et félicitez-les pendant une minute. En faisant cela, vous allez faire du bien à vous-même. Le simple fait de mettre l'accent sur ce qui est positif va vous fortifier. Puis, accordez une minute de louange à Dieu. Je sais que ça peut paraître banal, mais commencez aujourd'hui même. Essayez de louer le Seigneur pendant une minute sans vous arrêter. Mais de louer le Seigneur pour les bienfaits qu'il vous a apportés, qu'il vous apporte au quotidien.
Faites-le chaque jour pendant une semaine et voyez comment cela vous fait du bien et vous rapproche encore plus près de Dieu. Frères et sœurs, en terminant, il y a deux sortes de gens dans le monde. Ceux qui s'attardent sur ce qu'ils veulent et ceux qui s'attardent sur ce qu'ils ont. Il y en a qui attendent toute leur vie pour avoir ce qu'ils ont rêvé d'avoir. Et il y en a d'autres qui se contentent de ce qu'ils ont parce qu'ils savent que c'est la volonté de Dieu. Joignez-vous à ceux qui s'attardent sur ce qu'ils ont. Glorifiez ainsi Dieu et réjouissez-vous toujours en lui. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter un cantique.